Et vous écoutez France Culture. Un artisan doit rester insatisfait. S'il ne remet pas constamment en question, il cesse d'évoluer. Hermann.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre.
Mauvais genre qui a fait ce jeudi le voyage d'Angoulême à l'occasion de la 44e édition du Festival international de la bande dessinée, ce pour vous rapporter les visites de trois expositions qui en sont les moments les plus marquants, celle consacrée à Will Eisner, musée de la bande dessinée, celle consacrée à Hermann et celle conçue, spectrale et fantomatique, par Lou Weifang. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Jean consacré bien sûr à la bande dessinée, alors que effectivement cette semaine c'était le festival d'Angoulême qui était au cœur de nos préoccupations et nous y sommes allés, non pas en totalité, mais on s'est déplacé. Antoine Guillot, bonsoir.
Bonsoir François.
Le Nagra à l'épaule pour effectivement voir un peu ce qui était proposé et on n'a pas été déçus quand même.
On a fait des belles visites, on n'a pas pu tout voir et on le regrette parce qu'il y a certainement tant d'autres émissions à faire sur des sujets passionnants, mais je crois que ce qu'on a vu reflète pas mal ce qu'est Angoulême actuellement.
Voilà, on va vous en dire plus dans quelques instants, mais avant cela, bien évidemment, nous devons ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais gens. Grâce à vous Céline, bonsoir.
Et à quelle bonsoir. Lettre ? Bonsoir, eh bien c'est la lettre F comme féroce.
Alors quand on ouvre la revue, j'aime à penser qu'on tombe sur la page centrale. Je sais pas si c'est le cas, j'aimerais beaucoup, parce que c'est une œuvre d'Aude Nerdrum qui s'appelle Morning Sheet Rocks, qui est un artiste norvégien, Aude Nerdrum. Un tableau dingue, kitsch, trois femmes nues de dos qui sont littéralement en train de chier en fait. Un univers assez sombre, il y a des traits chauds, des couleurs ocre, rouges comme ça. Elles sont au bord d'un lac, il y a le reflet et le reflet de leurs fesses qui sont en train de elles sont affairées quoi. Je trouve que ça c'est criant de vérité quoi, quelque chose.
Voilà le genre de vérité que Féroce, revue annuelle qui mêle art contemporain et érotisme, donne à voir. Du sexe, des fesses, des corps, des peintures, des dessins, des photos, des sculptures, des textes qui tous mettent en magnificence des phallus en toute puissance, des vulves épanouies, des corps en extase et des sens en éveil. Le numéro 2 de Féroce est sorti en décembre dernier et Clément Gagliano, son concepteur et créateur, a choisi de placer sa revue sous le signe des fictions. Sous une couverture élégante, blanche, irisée, chic et hautaine, se déclinent prologue, acte 1, 2, 3 et un épilogue qui raconte de hautes visions sexuelles avec, selon moi, comme point d'orgue, le travail de Carole Deltendre.
Alors Carole Deltendre fait des moulages de bagues directement sur les clitoris. Elle fonctionne sur commande uniquement, on peut comprendre. Là, après dialogue, on a trouvé que c'était pas mal de faire d'inclure le résultat, le saut en cire dans la revue. Du coup, on en a tiré 1000 et le résultat est assez bien. Ouais. Il passe bien dans la revue.
Le saut est placé sur une étiquette.
Ouais.
Décrivez-moi le
complexe. Oui, oui. Alors, il y a une petite on a 1000 étiquettes américaines sur lesquelles ont été coulés 1000 sauts en cire. Ajouté un coup de tampon. Écrivant ceci est mon corps, qui est une demande de l'artiste, et puis au dos de cette étiquette, il y a le nom de l'artiste, l'année de réalisation du sceau, 2016. Tout ça mis dans un petit blister, très mignon, très léché, et un petit point de colle, et sur la page où une autre œuvre de l'artiste est présente, un camé, une broche de Carole, une autre œuvre qu'elle fait.
Et qui représente quoi ?
Qui représente le vagin, le reste, la partie qu'on voit habituellement, voilà. Ouais. Donc du coup, le clito est placé à... je me trompe, c'est plus bas.
Il est placé en tout cas au-dessus de la broche.
Mais il est à peu près dans l'axe, là, non c'est...
D'érotisme, il est question dans la revue Féroce, revue qui fait rimer art contemporain avec Eros. Le numéro 2, comme le numéro 1 d'ailleurs diffusé par les presses du réel, est sorti il y a peu. Au sommaire, Olivier Blancard, Éric Pougeot, Camille Bello, Valérie Oka, pour ne citer que des artistes choisis avec flair et délicatesse par Clément Gagliano, créateur de ce cahier érotique qui paraît une fois par an, à retrouver dans les librairies et sur leur site internet www.revueféroce.fr.
Alors Antoine Guillot, on vous a soumis la revue Féroce, une réaction sur les trois sorcières de Macbeth surprises à déféquer dans la lande ou je ne sais où.
Eh ben je constate une sorte de retour au classicisme puisqu'on est dans le figuratif, même si parfois on est à la limite de l'abstrait. Moi, ça m'évoque les travaux pour certains de la maison d'édition belge Frémok, qui avec Alex Barbier s'était aventuré dans ce genre d'image. Donc il y a à la fois de l'effroi, de l'apaisement, de la chair dans toute la volupté, et puis certaines choses qui ont l'air de faire très mal quand même.
Ah oui, voilà, il y a des ustensiles.
Il est tombé sur la page avec les agrafes, je crois.
Voilà, très bien.
Oui, mais il y a aussi la page suivante est très colorée. C'est de la pastèque qu'on voit avec des attributs masculins. Il y a un côté de Tsai Ming-liang qui est assez réjouissant.
Voilà, j'espère que l'envie vous est venue de regarder la revue Féroce, qui en est à son numéro 2.
Une revue annuelle.
Qui fait partie désormais de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Et maintenant, direction un lieu tout aussi féroce, mais peut-être d'une autre manière. Antoine Guillot, on va voir le monde enchanté de la bande dessinée, puisque cette semaine se tenait à Angoulême la 44e édition de son Festival international de la bande dessinée. Marvel Hampton, choix de Laure Polleret pour notre playlist de ce soir dans Mauvais Genre. Ah oui, un événement bande dessinée, Céline, avant que l'on se rue sur Angoulême.
Oui, c'est de rappeler aussi que le prix Artemisia a été délivré le 9 janvier dernier. Donc Artemisia pour la promotion de la bande dessinée féminine. 4 prix cette année pour les 10 ans d'Artemisia, dont le grand prix décerné à Céline Wagner pour Frapper le sol. Donc c'est chez Actes Sud l'an 2. Et c'est donc un portrait biographique tout en beauté de l'inventeur du buto, Tatsumi Hijikata, qui est donc un véritable révolutionnaire de la danse et qui a été l'initiateur et le créateur du buto.
Merci Céline donc pour cette information concernant Artemisia. Alors, 44e édition, je le répète, du Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui termine demain, je pense.
Absolument, dimanche.
Voilà, mon cher Antoine. Alors, un point d'abord sur Angoulême. On n'était pas allé depuis bien longtemps. On a été heureux de retrouver le lieu et puis ses rituels d'hiver, puisque c'est quand même une ville qui monte et qui descend. On passe d'un lieu à un autre, d'un point de vente à un musée à une exposition. Enfin, on était heureux de retrouver Angoulême. Alors, un petit point institutionnel, on peut le dire, sur le festival.
Voilà, parce que l'an dernier, ça avait été l'année de toutes les gaffes, de tous les scandales, de tous les énervements, notamment sur la question de la place des femmes dans la bande dessinée, mais aussi d'un certain nombre de couacs dans la remise, une cérémonie de remise des prix, ce qui fait que les éditeurs en étaient sortis très très énervés, menacés dans leur ensemble, et Guy Delcourt en tête, qui préside la branche bande dessinée du syndicat national de l'édition, de ne plus remettre les pieds dans ce marigot infâme qu'était pour eux le Festival d'Angoulême. Entre-temps, il y a eu un appel à une médiation désirée par les auteurs et les éditeurs, qui a été menée à bon port, puisqu'un rapport a été remis à la ministre de la Culture. Alors une femme, il y en avait une, il y en a plusieurs cette année à Angoulême. Il y a la présidente du jury qui va décerner les Fauves d'Or, c'est l'auteur anglais, autrice, autruche, pour dire, comme Florence Sestac, Posy Simmons, excellent auteur, donc on va voir ce qui va en sortir. Il y a une liste de 10 finalistes pour le Fauve d'Or cette année, c'est une nouveauté, une shortlist comme dans les prix littéraires, parmi lesquels il y a La Légèreté de Catherine Meurice, Patience de Daniel Clowes, qu'on entendra dans un mois à Mauvais Genre, et puis d'autres bons livres qui peuvent se défendre. Mais on a eu le sentiment donc que c'était une année apaisée, parce que l'autre femme qui était en même temps que nous, elle a pris le même train que nous jeudi, c'était la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, qui est venue a priori lâcher une bombe, mais qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup d'effet, puisqu'elle annonce une reconfiguration du mode de gouvernance d'Angoulême. Angoulême, au départ, c'est une association d'Angoumoisins amateurs de bande dessinée qui crée la manifestation il y a 40 ans et quelques,
44.
Et qui possède la marque et qui délègue l'organisation du festival à une société, la société de Monsieur Franck Bondou, 9e Art Plus, qui crée depuis donc un certain nombre de contestations, de remous. Et pour professionnaliser d'une certaine manière ce festival, l'idée d'Audrey Azoulay, à la suite du rapport qui lui a été remis, c'est de faire une association type celle qui organise le festival de Cannes, c'est-à-dire une association qui regroupe l'ensemble des partenaires institutionnels, les financeurs publics, mais aussi des représentants des éditeurs, des auteurs, etc. Alors là où ça peut potentiellement repartir en vrille, c'est que l'association d'origine, qui cette année a décidé de s'afficher dans la rue Hergé, elle a ouvert un petit local, venait adhérer à l'association, ne compte pas du tout se laisser faire, ne refuse de rejoindre cette association plus globale. Donc il est possible que l'année qui vient donne quelques scandales à venir, mais pour l'instant on avait plutôt le sentiment donc d'une ambiance...
On a profité de l'année de calme.
Apaisée, voilà. Alors, d'abord parce qu'il y a eu une clarification du côté de la direction artistique du festival. Auparavant, depuis le départ de Benoît Mouchard, nous avions un triumvirat qui dirigeait le festival. Alors ça partait un peu dans tous les sens. Depuis cette année, c'est Stéphane Beaujean, critique, l'excellente revue Kaboom, libraire, et vraiment grand spécialiste de la bande dessinée, qui est le directeur artistique en titre. Résultat, on obtient notamment pour les expositions quelque chose d'assez remarquable qu'on avait senti déjà l'an dernier, parce qu'il était co-commissaire avec Jean-Pierre Mercier à l'exposition Lucky Luke, dont je vous avais dit le plus grand bien. Une vraie réflexion aboutie à présent sur comment exposer la bande dessinée. On a vu le désastre artistique et scientifique qu'a été l'exposition Hergé au Grand Palais, même si elle a attiré beaucoup de monde. Ici, on a réellement un travail scientifique sur les auteurs exposés, et ça en donne tout le sel, et c'est notamment dans les trois expositions dont nous allons parler à présent.
Alors, trois expositions. La première, ce sera l'exposition consacrée à Will Eisner, qui fut, il y a plus d'une dizaine d'années, l'invité de Mauvais Genre. C'est un souvenir extrêmement émouvant, donc le géant de la bande dessinée mondiale et de la bande dessinée américaine tout particulièrement. Herman, à qui on avait consacré 2 heures d'émission, grand prix donc. Et puis Louis Fang, qui fut très récemment notre invité. Donc on était un peu en territoire de connaissance.
Vous croyez que les directeurs artistiques d'Angoulême mais écoute, mauvais genre.
Ah bah il faudrait, ce serait une excellente idée. Alors là, des premières visites auxquelles nous vous convions, amis auditrices, auditeurs, eh bien c'est la visite de l'exposition donc Will Eisner. On peut dire où elle se tient?
Elle se tient au musée de la bande dessinée et l'image. C'est-à-dire que ce n'est pas directement une production du Festival d'Angoulême, mais une production du musée de la bande dessinée qui fait un travail extraordinaire avec Jean-Pierre Mercier comme directeur de conscience scientifique et beaucoup d'idées aussi chez lui, donc historien de la bande dessinée, un spécialiste de Crumb notamment, et l'hommage à Eisner cette année est tout à fait formidable. Il faut le rappeler que c'était le deuxième grand prix historique de la ville d'Angoulême, le premier ça avait été Franquin, le deuxième Will Eisner, et on rentre dans l'univers eisnerien grâce à une scénographie tout à fait envoûtante de l'atelier Lucilum de notre ami Marc-Antoine Mathieu.
Alors Will Eisner, d'abord et avant tout, le créateur du Spirit, on retrouve Jean-Pierre Mercier.
Absolument, du Spirit et puis de la ville en général, qui a été le grand sujet d'Eisner sur toute sa carrière, parce que dans la deuxième partie de son œuvre, le roman graphique, tout se passe à New York, qui était le New York de son enfance, le Bronx, Brooklyn, enfin tous les quartiers très pauvres d'avant-guerre et de l'entre-deux-guerres aussi. Là, on a eu la chance de travailler avec l'agence Lucilum d'Angers, qui sont des scénographes, dont Marc-Antoine Mathieu, qui est un auteur de bande dessinée bien connu par ailleurs, fait partie. Et bon, on est tombé d'accord sur cette ambiance-là immédiatement. Ça a été leur première proposition, et c'était nous aussi notre première grande idée. C'est on est dans la ville, on se déplace dans une ville noire avec des éclairages très très tranchés, des ambiances un peu lampadaires de nuit. Il y a un côté comme ça chez Eisner tout le temps, avec de la pluie, avec les gabardines, les chapeaux. Enfin, bon, on était vraiment là-dedans. Donc on a joué ça. Et ils l'ont interprété. L'idée qu'on rentre dans l'expo et qu'on rentre dans l'expo, on est au dock de New York, parce qu'il y a plein d'histoires du Spirit qui se passent dans les docks avec les malfrats. Et puis petit à petit, on avance dans la ville et à la fin, il y a plus de lumière et on rentre dans la partie roman graphique où là, on est dans une ambiance un peu plus apaisée. On va de l'obscurité vers la lumière d'une certaine façon.
Alors, après une première salle où on voit l'enfance de Will Eisner, ses premiers travaux, on a d'abord le Will Eisner de studio, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bandes dessinées qui ne sont pas signées de sa main. On voit Hawks of the Seas, on voit Sheena, Queen of the Jungle. C'est le moment où, avant même de créer le Spirit, Will Eisner crée avec son complice Iger un studio où des Jack Kirby, par exemple, feront leurs premières armes.
Jack Kirby, George Tuska, Lou Fine, que du bon, que des grands. Comment s'appelle-t-il? Bob Kane est passé aussi, Bob Powell. Non, que les grands dessinateurs de l'époque. Eisner, en fait, il est au tout début, il est intéressé par le théâtre. Sa mère, qui est une femme pratique et qui a un sens de la morale, lui dit « Il est hors de question que tu ailles dans le théâtre, tu vas crever de faim et en plus les femmes sont infréquentables. » Donc on va arrêter ça tout de suite. Il est tenté par la littérature, c'est un grand fan de O. Henry, c'est un grand fan d'Ambrose Bierce, c'est un grand fan de Maupassant, de Mark Twain, enfin de tous les grands... pratiquant de la forme courte en littérature, il connaît ça absolument par cœur. C'est un énorme lecteur de pulps aussi. Il adore toute la littérature populaire avec les courtes nouvelles, les histoires de détectives justement. Et il essaye aussi la peinture. C'est pas son truc, il n'y arrive pas. Il a une assez courte formation, on va dire, dans une école de beaux-arts avec un excellent prof dont le nom m'échappe pour l'instant, mais qui était un peintre qui est très connu, mais j'ai un blanc, et qui lui a donné vraiment des bases extrêmement solides pour la suite. Et en fait, la bande dessinée, c'est sa grande passion. Il a lu Popeye quand il était jeune, il l'idolâtre, il vénère absolument Crazy Cats, qui prouve que c'est un homme de goût. Et sa grande référence quand il commence à vouloir travailler dans la bande dessinée, c'est Milton Caniff, Terry et les pirates. Donc on retrouve le noir et blanc, mais là on est dans les mers d'Asie du Sud-Est, la grande aventure, mais l'utilisation de la photographie, l'utilisation d'angles de prise de vue comme ça qui sont plongés contre plongés, tout ça très très pyrotechnique. Et Eisner est complètement fasciné par ça. Et il va effectivement commencer à placer des bandes dessinées. On a deux pages d'une histoire qui s'appelle Espionnage, qui est une rareté absolue. Tout le reste a fini à la poubelle, évidemment. Et quand il monte avec Jerry Iger, Iger est plus un commerçant, c'est plus un représentant. Il place les. Et en fait, il signe quelques bandes de son nom, mais il en signe beaucoup avec des pseudonymes qui sont des anagrammes de son nom. Par exemple, Hawks of the Seas, il le dessine, mais il le signe Renzi, Eisner. Et Sheena, en fait, ils ont une idée géniale et l'idée vient d'Eisner. Il dit, bon, il y a les éditeurs de pulps là, qui font de la littérature, mais tout ça est en train de se casser la figure. Et lentement mais sûrement, ils se tournent vers la bande dessinée, ils y connaissent rien. Et si on leur proposait des projets clés en main ? Et c'est comme ça qu'il va inventer plein de séries, alors de détectives, et en particulier China, qui est celle qui est restée parce qu'elle a eu le plus grand succès. China, c'est une idée d'Eisner. Il dit, on va prendre Tarzan, on va en faire une femme blonde avec un costume léopard, des formes assez généreuses, et elle va avoir un faire-valoir. Dans le cas de Tarzan, c'est Jane, qui passe son temps à se tordre les chevilles, à se faire... Et là, c'est un garçon... C'est un homme qui est exactement dans le même rôle. Il est complètement empoté, il n'arrive à rien. Donc il renverse complètement les rôles. Ça plaît à l'éditeur, il fait les 3 ou 4 premières histoires. Et ensuite, c'est Bob Powell, justement, qui va reprendre la série et qui va la dessiner. Puis ensuite, elle va passer de main en main, elle va être adaptée au cinéma. Mais c'est un grand fournisseur de toute cette production très populaire avec des choses tout à fait remarquables. Hawks of the Sea, c'est une super série. Alors... Quand on avance dans l'exposition...
Alors c'est le spirit, là.
On arrive dans la partie spirit. Alors ce qui se passe, la partie spirit, c'est qu'avec Iger et Eisner, ils fournissent plein de professionnels. Et il y en a un qui est extrêmement important, qui est un nom peu connu de l'histoire de la bande dessinée américaine, mais qui est extrêmement important, qui est Everett Arnold, dit Buzzy Arnold, qui est un éditeur, alors au sens intellectuel du terme, qui travaille dans une agence qui dépend d'un journal quotidien qui publie les strips et les suppléments dominicaux. Et Buzzy Arnold dit, les comic books là, qui viennent d'arriver, parce qu'on est en 39, il y a le Superman, Batman, The Flash, tout ça commence. Les comic books, ça va nous manger la laine sur le dos, nous, les éditeurs de bandes dessinées, dans les journaux, les agences qui vendront ça. Et il a une idée, en discutant avec un des rédacteurs en chef de journaux, il dit, on pourrait peut-être essayer de proposer, nous, notre comic book dans le journal. Au lieu de faire un comic supplement à l'ancienne, au même format que le journal, on pourrait faire un petit cahier avec des bandes dessinées, 16 pages. Et oui, c'est une bonne idée. Qui on peut trouver ? Et Eisner était connu pour être fiable, rendre pile à l'heure tout, et un bon dessinateur et un très bon raconteur d'histoire. Donc ils vont contacter Eisner, et qui va hésiter. Alors c'est une histoire qu'il a racontée plus tard, dans les années 80, dans The Dreamer, le rêveur. Il va hésiter, et en fait il va finir par accepter. Et Iger lui dit, bah écoute, non, là on peut pas continuer. Et surtout, Buzzy Arnold lui dit, tu fais ça en indépendant. C'est pas ta boîte qui le fait, c'est toi qui le fais en ton nom propre. Et Eisner se dit, je vais saisir enfin l'occasion d'être un auteur, de pouvoir signer de mon nom et d'assumer une œuvre en tant qu'artiste. Donc il saute sur l'occasion et Iger dit, ok, vas-y. Il rachète les parts d'Eisner le moins cher possible. Eisner monte son propre studio. Et il commence l'aventure. Et Iger, avant qu'il parte, lui dit « Fais attention, parce que là, la situation internationale, on est en 40, la guerre en Europe va arriver, les États-Unis, dans les années qui viennent, tout ça va être très incertain, on ne sait pas très bien ce que va devenir la presse. » Et Eisner dit « Oui, t'as raison, mais il faut absolument que je saisisse ma chance. » Et donc, il va commencer à faire le spirit en réunissant un petit groupe de dessinateurs. Il prend en charge un cahier de 12 pages et lui prend la part du lion avec le spirit. Et là, il va discuter avec Buzzy Arnold. C'est vraiment une discussion assez longue, assez serrée. Buzzy Arnold a des demandes très très précises. Il y a toute une correspondance extrêmement fournie où j'aimerais bien qu'il soit comme ci, comme ça. Et Eisner, qui est très jeune mais qui est déjà un professionnel aguerri, répond à la commande. Et en particulier, c'est un détective, ça se passe dans une ville, il y a des méchants, il y a des femmes fatales avec la plastique qui va avec, enfin il y a tout ce qu'il faut, et il fait ça. Et une des demandes de Buzzy Arnold, justement en rapport avec l'essor des super-héros, à l'époque on les appelait pas des super-héros, on disait des costume heroes, des héros à costume, donc la cape, le truc, il dit, et ton personnage il a une cape et tout, et Eisner dit non. Et Arnold dit, si, il faut qu'il ait un déguisement, il faut qu'il ait quelque chose. Et la concession d'Eisner, c'est de dire, ok, il va en avoir une. Il raccroche, il va à sa table à dessin et il rajoute un masque sur les yeux du spirit. Il n'a pas de super-pouvoir. Voilà. Et c'est le début de Denis Colt. Alors on est dans quelque chose d'assez classique. C'est le jeune détective qui se fait battre comme plâtre et qui est laissé pour mort dans la première histoire. Et qui va, en fait, n'est pas mort avec le docteur Cobra. Et qui n'est pas mort, et qui va retrouver le commissaire Dolan qui représente la loi, et qui est le commissaire Dolan dit, bon, ben, on va prévenir tout le monde que tu n'es pas mort. Il dit, tut, non, laisse ça comme ça. Pour les malfrats, je suis mort, donc ils sont plus libres, donc ils vont se sentir plus, plus courageux, plus intrépide, et on va pouvoir les coincer, et je vais devenir le spirit. Et dans la dernière image, il met le masque. La première histoire, le premier épisode commence comme ça. Et donc, il va travailler pour les journaux une fois par semaine, donc c'est un gros boulot. Il réunit une nouvelle fois un studio. Il est partisan des méthodes efficaces, donc c'est un système un peu taylorien, division des tâches. Et il fournit, ça marche. Et alors, il ne s'en rend pas très bien compte au début, mais très vite, il saisit. Il n'y a pas, évidemment pas de sondage, mais il y a le courrier des lecteurs. Dans les journaux où ça paraît, il y a une poignée de journaux au début. Ça plaît beaucoup, mais à la surprise des éditeurs de ces journaux, ce n'est pas les enfants ou les adolescents qui le lisent, c'est les adultes. Et on a des témoignages. Le jeune Kurt Vonnegut avait un père architecte qui lisait le journal, évidemment. Et dans le journal, il y avait, à la fin de la semaine, ce truc. Et le père a commencé à lire les histoires du Spirit, et il adorait ça. Il adorait ça.
Il y avait un autre lecteur fameux des histoires du Spirit, c'était Orson Welles, qui a dit lui-même que ces contre-plongées venaient beaucoup des cadrages extraordinaires qu'on trouve chez Will Eisner, sans doute qu'il y a eu des allers-retours aussi, puisque Will Eisner est très influencé par le cinéma noir américain, le film noir. Et on a surtout, alors c'est peut-être parce qu'il est publié dans un comic book inséré à l'intérieur d'un journal, il n'est pas dans le format strip qui est repris, Will Eisner peut se poser la question de la mise en page, et il y a notamment ces fameuses premières pages chez Will Eisner, toujours très impressionnantes, sur comment mettre le titre du Spirit. Alors là, on est devant une planche de 1947, Hoagie the Yogi, où le personnage, donc, avec un turban sur la tête, va faire rentrer les lettres même du titre The Spirit dans une porte. Et on passait tout à l'heure devant une maison, une planche maison, c'est-à-dire qu'on a effectivement les cases d'une bande dessinée, ça peut évoquer une maison qui a été coupée en tranches, hein, un peu comme chez Jerry Lewis dans le tombeur de ces dames. Et lui, dès le départ, c'est un grand penseur de la bande dessinée.
Alors ça aussi, c'est très intéressant, parce que c'est les grosses discussions avec Buzzy Arnold. C'est-à-dire, Buzzy Arnold lui dit: tu trouves un logo? Il dit non, je ne vais pas trouver de logo, parce que si je mets un logo, je suis mort. Les gens vont savoir que c'est là. Il faut que je les surprenne. J'ai 7 pages pour les convaincre. Et donc, chaque première image doit absolument attraper l'œil du lecteur et donner l'impression de l'ambiance de l'histoire. Des fois, ça va se passer dans les bas-fonds, dans les égouts. D'autres fois, ça va être dans un immeuble, dans une banque. Donc, il faut absolument la nuit, le jour, dans le tramway, etc. Il faut que ma première page complètement le lecteur et lui donne envie de tourner. Et donc il impose, il ne cède pas là-dessus, et c'est un grand inventeur. Et là aussi, quand on voit les interviews, il y a Kubert par exemple qui dit que et aussi Stan Lee qui dit que les pages d'ouverture du Spirit ont été absolument déterminantes pour sa façon de penser le scénario de bande dessinée.
Alors là, nous sommes sur les docks de New York face à un Spirit quasi grandeur nature pris dans le cercle d'un projecteur, peut-être de police ou de ceux qui sont situés sur des bateaux. Il y a des caisses, il y a des palissades, des silhouettes comme ça d'immeubles avec des réservoirs d'eau. On est vraiment dans le film noir. Tout ce que vous proposez comme pièce originale, donc, viennent d'où? Vous avez...
Alors on a la première source, et là aussi c'est intéressant parce que Eisner a conservé dès le début les droits du Spirit, et il avait négocié le fait que la première histoire, elle était copyright, donc l'agence qui l'a distribuée, et une fois qu'elle était publiée, le droit lui revenait, et les originaux. Alors son studio, quand il est parti à la guerre en 1942, le studio a acheté toutes les vieilles planches, et quand il est revenu, il a dit bon, c'est pas grave, mais à partir de ce moment-là, il a conservé toutes les planches qu'il avait, il les a toujours toutes récupérées, et tout ça, 90% de ce qu'on a vient des collections de la famille. Il y a une ou deux pièces qui sont à nous. Il y a un collectionneur européen qui nous a prêté une histoire aussi. Mais 90% de ce qu'on a vient de là. Et alors, une des choses dont je suis extrêmement fier et surtout très très content dans l'expo, c'est qu'on a l'histoire préférée d'Eisner, qui est Gerhard Schnabel, qui est typique de ce qui est effectivement, pour moi, le génie absolument... précurseur d'Eisner en matière de narration.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
On retrouve Jean-Pierre Mercier, donc interviewé par Mauvais Genre dans le cadre de l'exposition dont il est le commissaire au musée de la bande dessinée d'Angoulême, une exposition consacrée à Will Eisner à l'occasion de son centenaire. Première partie de notre entretien a roulé sur les comics, le second va rouler sur le roman graphique.
L'histoire est la suivante, c'est que Eisner avait monté sa boîte qui s'appelait American Visual Corporation, dans laquelle il faisait de la bande dessinée, mais pour le gouvernement, pour l'armée, pour des choses comme ça. Et il y a monsieur Phil Suling qui est le premier organisateur d'une convention aux États-Unis à New York dans un lobby d'hôtel, ça c'est la grande spécialité de l'époque, avec quelques tables, des tréteaux, des caisses avec des vieux comics. Et Suling savait qui était Eisner, était un grand fan du Spirit, il lui dit vous êtes bien Will Eisner, il l'appelle au téléphone. Eisner dit vous êtes bien l'auteur du Spirit, oui, j'aimerais bien que vous veniez à ma convention, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Et dit non mais si, venez, parce que vous allez voir, il y a plein de gens qui aiment beaucoup le Spirit. Et Eisner se pointe, alors la cinquantaine, moustachu, fumant la pipe, costard, cravate, il arrive là-dedans et il découvre alors les fans de BD américains, donc on voit et surtout une nouvelle génération, parce qu'il y avait une partie qui était dédiée à la nouvelle génération des jeunes auteurs qui faisaient leurs propres comics, qui étaient l'underground. Et là il va tomber sur Crumb, Spiegelman, Kitchen, etc. Et c'est un zoo invraisemblable. Et pour eux, qu'est-ce que c'est que ce type? Et Spiegelman, qui avait une énorme admiration pour Eisner, dit, quand j'ai vu ce type-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que cet expert comptable vient foutre là? Et il y a quelqu'un qui lui dit, c'est l'auteur du Spirit. Elle dit, d'accord, j'ai plus rien à dire. Et en fait, il va faire une rencontre. Là, il va se rendre compte, d'une part, que le Spirit intéresse une nouvelle génération et que cette nouvelle génération est en train d'expérimenter des choses nouvelles. Et pour lui, ça va, comme il est toujours à l'affût, en fait, c'est un businessman qui adore la bande dessinée et qui essaye toujours de la faire avancer, mais pas au prix de la pauvreté. Et là, il se dit, ok, je peux rééditer le Spirit. Il a essayé avec Warren, ça marche, mais pas suffisamment. Et là, il y a un jeune dessinateur, mais qui est tenté par l'édition, qui s'appelle Dennis Kitchen. Et Kitchen vient le voir avec tout son courage et toute la folie de sa jeunesse, qui lui dit, moi j'aimerais bien rééditer le Spirit. Il n'y a pas, la maison d'édition s'appelle Krupp Comics, enfin, c'est inouï, c'est n'importe quoi. Ils ont un petit bureau à Milwaukee, là-bas, dans le Wisconsin, enfin c'est complètement insensé. Et Eisner, le courant passe. Et en fait il dit, ok, vas-y. Et Kitchen va commencer les rééditions sous forme de comics, ça marche gentiment, ça se passe bien. Et de proche en proche, Kitchen va travailler. Alors, il publie ses contemporains, Crumb, Skip Williamson et tout le monde, lui-même, parce que c'est un très bon dessinateur, et il commence les rééditions du Spirit. Et en fait, ça va être un échange. Ils vont beaucoup apprendre avec Eisner. Kitchen m'a dit, moi, j'ai appris mon métier d'éditeur avec Eisner, mais Eisner va beaucoup apprendre d'eux. Et en particulier, il va découvrir Justin Green, l'autobiographie. Et là, ça va le frapper. Et il tombe sur le terme dans un article, je ne sais plus très bien où, sur le thème graphic novel, roman graphique. Et il se dit, ça c'est génial et c'est ce que je veux faire. Et en fait il va réfléchir en voyant les comics, en voyant les auteurs, en voyant Crumb, en voyant tout le monde. Il se dit, là il y a des choses à faire. Et en fait à partir de 73-74 il réfléchit, il prend des notes et il arrête de travailler pour l'armée américaine. Il met un peu en veilleuse toute son activité. C'est un homme très prospère, il a des économies, il discute avec sa femme qui dit, bon écoute, on peut tenir 2-3 ans, et puis au pire, tu te remettras à faire de la BD s'il faut. Et il va se lancer dans ce projet qui est Contract with God, un pacte avec Dieu.
Alors justement, là, Jean-Pierre Mercier, c'est la deuxième partie de cette exposition à Angoulême. Là, on est vraiment, on bascule, on n'est plus du tout chez Jules Dassin. On est vraiment au cœur même de l'innovation de Will Eisner, avec toutes les extraits, donc, alors il y a Fagging the Jew, donc, avec Oliver Twist, le pacte avec Dieu, donc c'est la deuxième partie de l'exposition.
Absolument. Et en fait, il va, à partir de 78, avant Art Spiegelman, parce que Mouse sort en 80, il va sortir, alors il fait le tour de tous les éditeurs littéraires, il connaît quand même, il est connu dans le métier, donc il connaît un centre d'agents, il connaît un centre d'éditeurs, il va chez tous les éditeurs littéraires de la place de New York en leur disant, voilà, j'ai un roman. Et donc, on voit le manuscrit, il vient avec, et les éditeurs ouvrent le dossier en disant, mais attends, mais c'est de la BD. Non, c'est pas de la BD, c'est un roman graphique. Ah, mais nous, on fait pas ça. On fait pas de roman graphique. Et il va finir par trouver un petit éditeur baronnet qui va éditer la première édition. Alors, dans des conditions techniques assez catastrophiques, les pages sont mal imprimées, la colle ne tient pas. Et le bouquin marche bien, à la surprise générale. Et en fait, Eisner n'est pas content du résultat. Il va redonner après le bouquin à Kitchen, et Kitchen va sortir tous les livres qui vont suivre. Et bon, après, Kitchen Sink va avoir des problèmes de sous, donc il va y avoir une faillite. Mais globalement, il va sortir tous ses livres. Et là, il y a des témoignages, là aussi. Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller, des gens comme ça qui disent, quand on est tombé là-dessus, on s'est dit, OK. Voilà, il ouvre encore un nouveau champ. Alors, et Spiegelman arrive avec Maus, qu'il est en train de prépublier à l'époque dans Raw, dans son grand magazine, donc le petit supplément dans le grand magazine. Et c'est un choc pour tout le monde. Et il va imposer le terme roman graphic novel aux États-Unis. Et donc, avec ça, il simplifie. Alors, c'est des petits formats, on se rapproche du format du livre, noir et blanc. Parce qu'il veut être efficace. Et l'obsession d'Eisner dans toute sa carrière, et c'est ça, moi, qui me semble le plus frappant, c'est le récit. Il disait une chose qui est très juste, que me rappelait Pete Poplaski qui a travaillé avec lui. Il disait, en bande dessinée, il y a les raconteurs et les décorateurs. Moi, je suis un raconteur.
Alors, que proposez-vous comme rareté aux visiteurs de l'exposition?
Alors, on a la première couverture, enfin, une des plus anciennes couvertures du Spirit, qui s'appelle The Prom, où on voit le Spirit donner la fessée à Helen, son éternelle fiancée. Alors, c'est plus très politiquement correct, mais c'est un document d'époque. Et on a surtout beaucoup d'esquisses, beaucoup de dessins, en particulier sur l'album qui s'appelle The Dreamer, le rêveur. On a des planches, on a les planches finies, et à côté, on a les crayonnés, crayon de papier et crayon bleu, où on voit le passage de l'un à l'autre. Et c'est assez fascinant. Je dois dire qu'on voit l'intelligence de quelqu'un qui sait d'emblée répartir les noirs, les blancs, qui se pose des questions de lisibilité tout de suite. Quand il fait du roman graphique, le Spirit paraissait en format comic book, mais il jouait. Ses originaux étaient de grand format. Là, il est sur des originaux de petit format parce qu'il veut d'emblée être bien dans la bonne dimension, si je peux dire, par rapport au format livre, livre-roman, entre guillemets. Et donc, il a, autant il y a beaucoup de pyrotechnie dans le Spirit, on en parlait tout à l'heure des plongées contre plongées, on parlait d'Orson Welles. Au passage, il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé une lettre à Eisner pour lui dire le jour où je ferai un film, j'oublierai pas le Spirit. C'est un certain Charles Laughton. Hein. Et Eisner avait la lettre dans son bureau.
La nuit du chasseur.
Absolument. Et il avait la lettre dans son bureau. Et Laughton était un très très grand admirateur d'Eisner et du Spirit.
Voilà, le Spirit, Will Eisner à l'origine, une des sources possibles de La Nuit du Chasseur, monsieur Guillot.
Et William Friedkin aussi s'est beaucoup inspiré de Eisner, il a toujours raconté. Petite précision, le commissariat de l'exposition est en fait signé Jean-Pierre Mercier, qu'on vient d'entendre, et Stéphane Beaujean, le directeur artistique du festival d'Angoulême, puisque c'est une coproduction entre la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image et le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'exposition dure jusqu'au 15 octobre 2017, donc vous avez tout le temps de vous régaler
largement
de ces planches magnifiques qu'on voit. Et puis il y a un catalogue qui est publié justement par Kitchen Denise Kitchen, dont on parlait, et Dark Horse Comics, un catalogue bilingue pour cette exposition avec des facsimilés extraordinaires et des textes d'une précision et d'une intelligence remarquable.
Merci Antoine. Second temps fort de ce 44e festival d'Angoulême de la bande dessinée, l'exposition consacrée au président Herman que nous avons rencontré après avoir accueilli un mauvais genre. Donc Herman en pleine forme, volubile, conceptuel, puissant, un véritable titan de la bande dessinée, ce qu'il est. Donc on l'a visité, son exposition, avec lui. La première question qu'on lui a posée, ma foi, elle était liée au cinéma, évidemment au western italien. Est-ce qu'il y aurait, du côté du western italien, une source à la bande dessinée carnée, violente et incarnée de Herman? Réponse de l'intéressé.
Oui, les films de Sergio Leone m'ont beaucoup impressionné. Oh, c'est pas très, comment je veux dire, c'est un western un peu spécial, quoi, un peu inventé, quoi. Oui, mais je sais, mais c'était un western quand même qui faisait rêver, qui plaisait beaucoup. Puis c'était quand même du bon cinéma, c'était vachement bien cadré, c'était bien raconté. Et après, ça a du succès, ça passionnait les gens. Les gens allaient quand même voir avec plaisir le western de Sergio Leone. Oui.
Alors comment vous avez un peu défini là, la construction là, de la planche avec justement une contre-plongée, des plongées?
Ah oui, c'est une chose que vous avez peut-être remarqué si vous connaissez un peu mon travail. Et c'est vrai qu'il y a des plongées, mais pas tellement. C'est surtout, je mets souvent la caméra à la hauteur des, je dirais après presque des fesses. Ça me permet d'avoir des personnages qui sortent de terre. Et donc, c'est peut-être dû au fait que j'ai fait de l'architecture. Et les bâtiments, ça sort du sol et ça va vers le haut. Et dans le fond, souvent mes personnages, je dis, sont vus de plus bas afin de mieux occuper le haut. C'est le contraire de ce que Hergé faisait. Lui, il était tout situé à la hauteur des yeux des gens. Ça, j'aime pas trop. Évidemment, lui a un dessin très simple, sa courbe Neptune, mais ça ne va pas avec mon style. Moi, c'est autre chose. Vous voyez, c'est tout sort de terre. Pourquoi, vous dites, l'architecture a dû jouer un rôle, et puis je n'ai jamais cherché à m'en débarrasser, je crois, parce que ça me plaît assez.
Mais ces plans-là, ça donne aussi l'impression que les personnages ont de la masse, ils ont du poids, c'est quelque chose qui est très particulier chez vous, ils ont les pieds dans la terre, et quand ils tombent, ils se font mal.
Exactement, mais oui, c'est exact, mais parce que c'est logique qu'on se fasse mal, donc j'ai envie quand même de l'exprimer ainsi, hein.
Ils font même mal après. Là, il est mort, il tombe. Et vraiment, là on a le sentiment que c'est toute la viande qui s'écrase sur le sol au milieu de la poussière.
Oui, mais tant mieux. Oui, j'ai envie de. Chaque case doit parler. Il y a un côté physique chez moi, c'est viscéral. Je ne peux pas avoir une approche. Certains peut-être pourraient réussir une approche intellectuelle, du western intellectuel. Je ne sais pas, il va falloir qu'on m'explique. Non, c'est physique, c'est la poussière, c'est le crottin de cheval, c'est l'odeur des chevaux, l'odeur des vaches, la poussière, l'inconfort. C'est tout ça. Et dans la mesure où j'arrive à l'exprimer, c'est plus ou moins ça, mais je ne réussis pas toujours tout, ben, fatalement, parce qu'évidemment, surtout que c'est le début de la série, alors je vous dis qu'en fait, de défauts, il y en a des masses. Hein. Enfin, je suis parvenu à les corriger partiellement par la suite.
Oui. On va passer de la poussière du désert d'Arizona
à une étable,
à un arrière-cour. Là.
Oui. Alors ça, c'est une planche qui vous a causé beaucoup de soucis de réputation, on dira, Herman. La planche Comanche tome 4, Le ciel est rouge sur Laramie, oui. Titre magnifique. Planche 44, et on est dans une étable. Red Dust, le héros, fait face à un méchant, très méchant, sauf qu'il est en sous-vêtements de l'époque, hein, les caleçons longs de l'époque. Oui. Il est désarmé parce qu'il n'a plus de balles dans son pistolet. Et là, ce qui aurait dû être un duel dans les règles de l'art se finit en exécution sommaire. Qu'est-ce qui s'était passé là et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ça m'a valu, en France, pas en Belgique, ça m'a valu certaines critiques sur le plan, humanitaire, appelons ça comme ça, j'ai dit, c'est de la pure connerie, parce que je veux dire, à l'époque de l'Ouest, on zigouillait avec une facilité déconcertante. Donc je refuse de plaquer le regard que nous avons sur la société sur cette époque-là. Donc je disais, l'hypocrisie, c'est pas mon fort. Alors quitte à me faire mal voir par certains, je m'en fous. D'accord, c'est clair. Et j'estime que ce type qui était une ordure, il est normal qu'il meure dans les poubelles. C'est tout. Je n'ai pas d'autre explication à donner et je ne reviendrai pas sur ce que je dis. Les autres, je suis désolé, les autres, c'est des gens qui se savonnent les mains de manière hypocrite. Eh bien non, ce n'est pas ma tasse de thé, ça ne le sera jamais. Désolé, excuse me.
Il y a un moment quand même intéressant, c'est cette case où justement toute la mémoire, le dossier à charge est derrière, et on voit et l'arrêt est rendu par le.
Voilà, et ben, ça c'est parlant. Alors vous savez, si on me reproche ce truc-là, c'est quelque chose qui tourne pas, quelque chose de pourri au royaume du Danemark, hein, d'accord, voilà. Hein.
Mais c'est aussi que chez vous, les personnages, parce que là, c'est un scénario de Greg, mais cette idée, elle est de vous, de ne pas le faire, c'est que les personnages, chez vous, ont leur logique propre. C'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment, ils vous dépassent, et il y a une logique propre au personnage qui excède même les intentions du créateur.
Oui, mais là, plus précisément, c'est le scénario de Greg, ne prévoyait pas exactement ça. C'est moi qui ai voulu qu'il en fasse, qu'il me torche une page où, justement, Dust, qui n'est pas censé le faire, exécute un personnage, un nuisible qui n'a pas arrêté que de massacrer les gens entre lui. Moi, je trouve que je le trouve plutôt sympathique de ce sous-aigle d'Anglais. J'aurais aimé faire ça moi-même.
Alors, on va quitter l'arrière-cour du saloon pour aller dans les profondeurs de la forêt sud-américaine avec les conquistadors. Et alors, c'est très intéressant parce que là, on est dans un moment de l'exposition qui est titré « Le silence ». Alors, c'est très intéressant, votre gestion du silence, vous qui êtes l'homme des cavalcades, des défouraillages, des cris, là, le silence.
Écoutez, là, d'abord, cette planche, le noir et blanc, celle qui reprend un peu l'épisode de Sharon Tate, c'est un peu basé sur ce massacre, c'est-à-dire qu'à part très... Oui, on ne dit presque rien, mais c'est parce qu'on peut narrer sans un mot. Alors c'est une forme de silence, mais je veux dire, c'est pas le silence, c'est la non-nécessité de dire quelque chose. Je vois pas pourquoi je plaquerai un texte sur quelque chose qui peut être narré par le dessin. Voilà. Donc c'est la même chose que j'ai, la manière que j'ai procédé dans cette forêt du Guatemala. Donc vous voyez un épisode parmi les Mayas qui s'apprête à attaquer des Espagnols. Et là, j'irai jusqu'aux scènes qui suivent. Je n'ai plus aucun besoin de dire quoi que ce soit. Ça, la violence s'imposait. Et puis, vous savez, quand on est dans un enfer pareil et qu'on est en train de suer, avancer, on n'a pas envie de parler. Il faut se dire ça aussi. Hein. Alors, bon, mais les Indiens qui sont à la fuite, ils n'ont pas envie de parler non plus. Ils vont se faire remarquer. Donc, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas une absence malheureuse de texte. C'est été une présence malheureuse de texte si j'avais ajouté. Alors je vais me taire aussi vis-à-vis de cette scène, étant donné qu'il n'y a rien à ajouter.
Il y a deux, trois trucs à dire quand même. D'abord que contrairement aux planches qu'on a vues là auparavant, qu'on venait de commenter, celle-ci est en couleur directe, et qu'il y a un usage narratif de la couleur. On n'est pas dans un naturalisme étroit. Les bleus des lumières sont un peu plus bleus. Il y a chez vous aussi un travail de la profondeur de champ qui a toujours frappé vos lecteurs. Oui. Vos planches ont de l'épaisseur. On sent que vous les travailler en profondeur.
J'essaie parce que avec les moyens du bord, parce que malheureusement on n'est pas en cinémascope, on n'a pas de possibilité de la bande dessinée en relief, ça n'existe pas. Donc c'est pas qu'on triche, non, au contraire. Je dirais même là, c'est vrai en partie, mais si je devais les refaire, je n'ai pas assez souligné les avant-plans. J'aurais dû davantage, parce que les fonds ça va, mais ce qui est à l'avant n'est pas assez souligné. Donc je suis en train de critiquer, mais c'est vrai que ça existe, cette différence de plan, mais elle est insuffisante dans ce cas-là. Vous savez, cette exposition me sert également de révélateur à ce que je ne suis pas encore parvenu à faire. Donc j'étais distrait par moments. Je suis désolé, mais vous savez, c'est pas mal parce que ça me permet, dans les quelques semaines qui me restent à vivre, je rigole, là, c'est que il y a des chances de corriger le tir, d'améliorer mon travail. Et c'est un peu la carotte devant l'âne. C'est ce qui me permet d'avoir envie de continuer, c'est de tâcher de corriger ce que je n'étais pas parvenu à faire. Soit étant dit, j'arriverai jamais au bout, il y en a trop. Enfin bon, n'empêche que ça me tire vers l'avant, c'est vrai. Je suis navré de l'erreur et en même temps, c'est bon que ça existe. Je vais continuer.
Voilà, donc là, on est entre deux murs. Un mur qui s'appelle Femme, à côté il y a Héros et en face il y a une série de portraits. Alors là, c'est complètement inédit pour nous. Ce sont des dessins en hommage à Egon Schiele, où vous poussez très loin ce qu'il y a toujours eu dans votre dessin, c'est-à-dire des corps à la fois qui existent parce qu'ils ont tous les défauts des corps de tout un chacun, et qu'en même temps vous poussez, vous exagérez le corps. C'est pour produire quoi, Herman?
Parce que c'est pour exprimer cette exagération, et également c'était ce côté un peu tordu de la vie, cette espèce de douleur. Vous savez, Gonchi, il exprime un peu la douleur du corps aussi. Disons que je reprends l'idée, mais je ne veux pas copier non plus ce qu'il a fait. Enfin, si je ne sais pas, c'est pas de Gonchi, mais sa pensée, j'essaie de la comprendre et de l'appliquer. C'est pas l'intention vraiment de faire du boulot comme lui, mais étant donné que j'ai tellement aimé son travail que je me suis dit, tâchant d'utiliser l'état d'esprit qui est le sien sur des dessins, en reprenant mes personnages, notamment des personnages de mes séries, mais en les tordant, en leur donnant quelque chose de plus douloureux, de plus périssable aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Mais je vais encore faire d'autres. J'en ai fait une trentaine en tout, il y a quelques ans là. Hein. Je vais continuer parce que je suis pas au bout de mes désirs. Il y a encore du boulot devant moi. Hein. Oh, je sais pas qu'on n'arrivera jamais au bout non plus, ça n'existe pas, si on meurt avant. Hein, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on travaille jusque, j'irais presque au seuil de la mort. Ça, c'est important. Hein.
Herman au micro de Mauvais Genre et au cœur de son exposition, donc visible, Antoine Guillot, à l'Espace Franquin Angoulême.
Oui, et souligner la richesse de cette exposition, plus de 150 planches exposées pour un vrai travail critique qui regroupe par thématique et analyse de ces planches le travail et la recherche graphique permanente de Herman, comme en témoigne le catalogue, là encore son magnifique, Herman le naturaliste de la bande dessinée, publié chez 9e Art Plus Édition, et le commissariat de cette exposition précise et pointue et grand public est signé Vladimir Lecointre et l'inévitable Stéphane Beaujean.
Absolument, on termine avec la troisième émission, la troisième exposition marquante de ce festival, celle consacrée à Louis Fang, Antoine.
Louis Fang, scénariste de bande dessinée et de cinéma et d'exposition talentueuse qu'on avait reçue donc ici. Comment exposer des scénaristes? C'est la question que se pose Angoulême depuis quelques années. Il y avait eu Fabien Nury. Eh bien, Louis Fang y répond en organisant une exposition sans cartel, une exposition immersive, mais en réalité augmentée grâce à une application que vous pouvez télécharger. On souligne d'ailleurs que L'odeur des garçons affamés, on l'avait beaucoup aimé et malheureusement il n'est pas en sélection officielle à Angoulême cette année.
C'est une erreur, on retrouve néanmoins Louis Fang.
Je fais apparaître un homme à tête de cerf au milieu d'une forêt qui se trouve dans mon exposition. Voilà, il apparaît au bas d'un arbre et il fait une petite révérence. Et ça fait partie de la réalité augmentée qu'il y a dans mon exposition. Il y a quelques fantômes comme ça qui se cachent un petit peu partout et qu'on peut voir sur les écrans des smartphones et des tablettes en scannant certains endroits.
Ce sont les nouveaux outils de spiritisme, les smartphones et les tablettes. Est-ce que ça veut dire que c'est une exposition qui est hantée?
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une exposition qui est comme une immersion dans ma tête quand j'écris. Donc j'ai la tête traversée de beaucoup de choses, dont de fantômes, qui apparaissent par surprise, comme ça, à des endroits. C'est une exposition qui se visite, les mains dans les poches, sans cartel, sans explication. Il y a des installations, du volume, du son, des dessins, mais classés par thème, pas par auteur, pas par livre. Donc il y a des choses à ressentir, plus qu'à comprendre. Ensuite, si on veut comprendre les choses et qu'on veut avoir les clés, il y a une partie site internet sur laquelle on peut se brancher en direct pendant la visite et avoir accès à des textes qui sont les clés de l'exposition.
Ça pourrait laisser à penser que les divers dessinateurs avec qui vous travaillez, dont on a les noms gravés sur cette pile de pierres, comme si on était après la ruine à côté de cette forêt, sont là pour traduire les visions qu'il y a dans votre tête, ou ce sont les univers graphiques de chacun de ces dessinateurs qui vont provoquer la résurgence, la sortie des replis de votre cerveau de ces visions-là?
Alors, ce qui concerne la liste des auteurs sur l'installation que j'appelle le rocher, en fait c'est une liste de dessinateurs invités qui vont intervenir pendant tout le temps du festival et improviser un grand cadavre exquis comme ça, soit narratif, soit visuel. Donc ça c'est un petit happening à chaque fois, parce que je voulais faire rentrer dans l'exposition une partie vivante, une partie performance. Je voulais faire une exposition de bande dessinée qui soit pas du tout classique, mais qui se mélange à d'autres choses, qui se mélange à de l'art contemporain, aux performances, à de la vidéo, à du son, pour montrer que la bande dessinée est une chose organique et mouvante et en évolution aussi, et qui doit être impure et qui peut évoluer en étant impure, c'est-à-dire en se mélangeant à d'autres disciplines.
Alors à l'entrée de l'exposition, il y a une sorte de graphe avec toute une série de thèmes qu'on retrouve tout au long de l'exposition, mais qui sont fléchés les uns avec les autres. C'est une volonté d'essayer de cartographier votre imaginaire ou d'essayer de montrer votre ADN mental, comment tout cela fonctionne.
Oui, c'est exactement ça. C'est une cartographie de mon imaginaire. Mes histoires, elles sont traversées par des thèmes récurrents qui se combinent de manière différente, qui peuvent créer des sous-groupes en s'accouplant comme ça. Parce que quand on m'a posé la question de travailler sur une exposition qui expliquerait ou qui exposerait mon travail, je me suis demandé, mais c'est quoi mon travail dans le fond? C'est de démêler les choses qu'il y a dans ma tête. Et ces choses-là
quand elle se mélange, elle crée des histoires. Mais quelles sont ces choses à la base? Donc j'ai dégagé plusieurs thèmes comme ça qui sont sur l'affiche de l'exposition. Et je me suis concentrée sur 5 thèmes sur les murs. Et donc ces 5 thèmes qui regroupent différentes pages des livres que j'ai faits. Ça permet de regarder vraiment le dessin, de regarder la mise en scène. Ça permet de voir comment chaque dessinateur traduit graphiquement un thème donné par rapport à un autre. C'est intéressant de voir comment Frédéric Peters traite le désir par rapport à Cédric Manche. Quel est son découpage, quelle est sa mise en scène, qu'est-ce qu'il va montrer et ne pas montrer. Pareil sur le thème du rêve. Quels sont les cauchemars dessinés par Philippe Dupuy? Est-ce qu'ils sont les mêmes que ceux dessinés par Michael Sterkman? Quelles impressions ça donne? Quelles sensations ça donne quand on regarde ça?
Ce qui fait que d'un découpage à l'autre, on peut passer d'une thématique à l'autre. Le premier, c'est désir. Le deuxième, c'est rêve. Et on a l'impression que les planches côté rêve recombinent des éléments qui sont déjà dans le côté désir. Et juste en face, on a un autre qui s'appelle corps-paysage. Enfin, on est à la fois voilà, dans quelque chose de très charnel et de très imaginaire. Dans ce que vous faites, vous travaillez beaucoup par ce phénomène de combinatoire.
Oui, parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression de toujours creuser le même sillon et de raconter toujours la même histoire, mais de manière différente. Et de puiser toujours dans les mêmes choses, dans le même sac, et d'en ressortir les mêmes choses. Ensuite, c'est comme une opération de chimiste. On met différents éléments en présence et on voit quelle réaction il se passe à ce moment-là. Donc oui, il y a de la porosité entre les thèmes, il y a de la fusion, il y a de la séparation. C'est le thème aussi de mon exposition, c'est la déterritorialisation. Donc c'est le déplacement, c'est le glissement de terrain. C'est l'identification d'un territoire pour le déplacer, pour en changer les limites et les contours. Et thématiquement, dans mes histoires, c'est ce qui se passe. Je passe d'un thème à un autre, je les mélange, je les combine. Et je vois ce qui se passe.
Ce qui fait que le visiteur de votre exposition, qui par exemple n'aurait jamais lu aucune de ces histoires, avec ce que vous proposez, peut se fabriquer sa propre histoire. C'est-à-dire que même si les univers graphiques sont assez hétérogènes, il y a voilà, des formes qui reviennent, ce qui fait qu'on peut imaginer, sans savoir dans quel sens il faut le lire, s'imaginer sa propre histoire. C'est ça que vous voulez provoquer aussi?
Oui, je voulais provoquer un sentiment d'être perdu, en fait. Comme quand j'écris, je ne sais pas où je vais, j'ai juste une intuition comme ça qui me guide, mais je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Et je voulais que le visiteur soit exactement dans le même état. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cartel qui explique les choses et que ces choses expliquées soient cachées. Donc on y a accès si on a envie, mais si on n'a pas envie de les voir, on ne les voit pas. Et puis oui, c'est pour provoquer l'imaginaire des visiteurs. Je montre des images, je ne dis rien de ce qu'elles signifient, et chacun constate ce que ça fait en lui, quelle fiction il se tricote à partir de ça.
Louis Fang au micro de Mauvais Genre à l'occasion de son exposition dans le cadre du 44e festival d'Angoulême sur lequel nous faisons un point final.
Oui, parce qu'il y a tant d'expos Antoine. Dont nous aurions pu parler également. On a entendu parler de Philippe Dupuy, on a découvert là-bas la machine à lire monumentale, 23 mètres de long pour lire l'histoire de l'art, une histoire de l'art de Philippe Dupuy. Il y a l'exposition pour les fans de manga de Kazuo Kamimura, 150 planches, là encore, et c'est un événement assez inédit en France. Pour les amateurs d'Underground, il y a l'expo Von Bodé, off. Et puis dire quelques mots aussi de Causé, Grand Prix de la ville d'Angoulême cette année. C'est assez surprenant qu'après Herman, déjà pilier du journal Tintin des années 60-70, ce soit à nouveau un auteur issu de là, donc Causé, grand peintre du retour à la mystique intérieure et de l'espace blanc surtout. C'est ce qu'il dessine le mieux finalement, c'est le blanc sur la page, Causé.
Merci Antoine d'avoir piloté cette émission de Mauvais Genre consacrée inscrit au 44e festival d'Angoulême. Je signale également, c'était en ouverture d'émission aujourd'hui, le numéro 2 de la revue Féroce. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Catherine Dérété, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblon, Céline Duchesnay, Antoine Guillot et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Gens. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Christophe Carlier pour une histoire de corbeau dans une île. D'ici là, on reste à l'antenne de France Culture, bien évidemment, et l'on retrouve Amaury Chardot pour Métronomique. Bonne nuit à tous.